R22 Radio, tout le monde et autres.
Les allumeurs, Luc Reben, des familles roms en Seine-Saint-Denis.
La suite de notre rencontre avec le groupe d'action artistique Les Allumeurs, en partenariat avec le média L'Insatiable et la radio R22 Tout le Monde, du Crében autour des cultures roms et gitanes. Nous poursuivons avec une conférence autour des populations roms en France, leur contexte politique, social et juridique, avec l'intervenante Anne-Cécile Cazot, doctorante en sciences politiques Paris 8, et Bruno Guichard de l'Institut pour la politique de la relation, et notre modérateur Nicolas Roméas.
Anne-Cécile Céasso, doctorante en sciences politiques et études de genre à l'Université Paris 8 sous la direction d'Éric Fassin, est membre du laboratoire d'études de genre et de sexualité et enseigne à l'Université Paris 8 et à Sciences Po Paris. Donc il y a un accent particulier qui est mis sur la trajectoire des femmes roms qui ont migrés en France depuis la Roumanie. Grâce à votre travail, à votre compétence et à tout ce que vous avez corrélé dans ces recherches, est-ce qu'on peut se faire un petit point de la situation déjà après ce que Tania nous a dit, est-ce qu'on peut préciser un peu les choses sur le statut des Roms en France aujourd'hui?
Merci pour cette invitation et pour cette invitation aussi. Moi, je vais plutôt vous parler de la question des Roms du point de vue de la migration européenne de la Roumanie et de la Bulgarie vers la France. Donc ici, on fait un peu un détour parce que souvent, on a eu tendance à parler des Roms sans trop savoir à quoi ça faisait référence. C'est un terme très polysémique qui peut regrouper énormément de communautés différentes, tout comme peut désigner plus spécifiquement, et c'était le cas depuis 2010, les Roms d'Europe de l'Est, vus comme des migrants précaires. C'est-à-dire qu'en fait, on désignait non seulement des Roms venus de Roumanie et Bulgarie, mais plus spécifiquement ceux qui venaient avec des ressources limitées et qui étaient rendus visibles dans l'espace public par leurs habitats précaires dans les marges urbaines. Donc là, en effet, dans le cadre de ma thèse, je me suis beaucoup intéressée aux trajectoires de familles et plus spécifiquement de femmes qui, dans la migration, se retrouvent face à des politiques de non-accueil organisées par la France et qui vivent donc pendant un moment en bidonville. Donc ça, c'est l'usage un peu de sens commun sur lequel j'aimerais revenir pour ce qui est de la situation plus spécifique de la Roumanie. Disons que depuis 1989, pendant la plupart de la décennie 90, la migration roumaine vers la France est assez importante, que ce soit des Roms roumains ou des Roumains plus généralement, avec une migration qui mêle migration dite clandestine et demande d'asile. Donc à partir de 98, la Roumanie est un pays sûr, donc les demandes d'asile cessent et la migration est vraiment renvoyée à une circulation clandestine. Et ça continue pendant de nombreuses années. Les conditions changent en 2002, mais principalement en 2007, quand la Roumanie adhère à l'Union européenne et intègre l'Union européenne. Toutefois, les régimes transitoires qui sont en cours jusqu'en 2013, fin 2013, font que le marché du travail et l'accès aux droits sociaux pour les Roumains est très limité, ce qui fait qu'en fait, c'est dans ce contexte-là que ce qu'on a pu entendre comme le problème rom, qui est en fait construit par les politiques publiques, surgit. Il surgit dans un contexte de survisibilité, de pratiques de débrouille informelle, comme la ferraille, la mendicité, enfin des pratiques de survie, qui sont visibles, notamment aussi parce que ces personnes n'ont pas accès au marché de l'emploi et donc font appel à d'autres pratiques pour vivre et survivre en France. Donc ça, c'est, voilà, disons que depuis une dizaine d'années, à gauche comme à droite en politique, on converge vraiment vers une construction d'un problème. On désigne ces familles comme étant un problème. Et dans ce cas-là, la lutte contre la criminalité devient un peu un prétexte pour le gouvernement pour détruire les habitats qui sont désignés un peu comme campements illicites, illégaux. Et ça, c'est quand même une controverse assez importante. C'est-à-dire quand Nicolas Sarkozy, dans son discours de Grenoble en 2010, dit qu'il veut mettre un terme aux implantations sauvages de campements roms, il mêle directement la lutte contre la délinquance et les trafics avec l'expulsion et la reconduite aux frontières de citoyens roumains, donc, et qui sont roms, enfin, qu'il désigne comme roms. Donc il fixe vraiment la catégorie rom comme une catégorie délinquante qui n'a pas sa place en France. Et là, il masque toute une complexité sociale et voilà, il essaye de créer un groupe totalement homogène à partir de l'expérience des plus précaires et des plus visibles. Donc, voilà. Donc on est en fait dans un contexte que vous connaissez, je pense, assez bien, d'un rejet qui est alimenté par des perceptions caricaturales des Roms. Donc on parle d'incompatibilité culturelle. Manuel Valls va expliquer que les Roms n'ont pas vocation à être en France, qu'ils ont vocation à rester dans leur pays. Enfin, voilà. Donc c'est aussi bien un problème d'immigration que de criminalité. Il y a des questions de marginalité urbaine aussi qui se posent. Voilà, donc par question Roms, voilà, on a construit le problème social par les institutions de l'État, alors même qu'il y a aussi des grandes variétés locales. Donc j'aimerais bien aussi revenir sur cette question, c'est-à-dire les politiques de rejet varient selon les municipalités, selon les départements et les régions. Donc certaines municipalités ont testé certains dispositifs, notamment comme les villages d'insertion, à partir du milieu des années 2000, dans le 93 notamment, à Saint-Ouen, Saint-Denis, Aubervilliers. Il y a eu des villages d'insertion. C'est des projets dont on pourra peut-être débattre, qui peuvent être vus comme assez controversés, car très sélectifs. Comment est-ce qu'on choisit les familles? Pourquoi celles-là? Quelles contraintes est-ce qu'on leur donne? Toute cette idée voilà, d'avoir des contraintes dans des règlements intérieurs qui pose question aussi sur voilà, une illustration d'une logique de sélection et d'exception, c'est-à-dire distinguer entre guillemets des bons et des mauvais migrants, des méritants et des moins méritants, dans une volonté d'aider certains, mais du coup de renvoyer l'idée de l'échec total pour les autres, dont il serait intéressant de débattre, bien sûr. Quand on inclut certaines personnes, qui est-ce qu'on se retrouve aussi à exclure dans une même démarche? Donc, rapidement, je voulais juste revenir aussi sur la question des circulaires qui décident de la gestion des bidonvilles, puisque la question des bidonvilles est un des aspects les plus saillants des discours sur les Roms, alors même que, bien sûr, il n'y a pas que des personnes roms en bidonville, et que, de façon générale, beaucoup de personnes roms, roumaines, françaises ou bulgares ou autres, ne vivent pas ou plus en bidonville. Toutefois, les évacuations régulières et la médiatisation de ces évacuations contribuent à visibiliser ces Roms qui vivent en bidonville et à donner l'impression que si on parle de Roms, on est obligé de parler de cette question. Alors du coup, je fais un peu ce même mouvement parce que je me retrouve à vous en parler. Mais disons que, enfin voilà, je pense que c'est quand même assez central de comprendre la manière dont c'est une politique d'éradication qui ne prend pas en compte ce qui advient des familles ensuite et qui doit être un point important d'un débat qu'on doit avoir aujourd'hui, voilà, sur ce qu'on peut faire et la manière dont on peut agir sur ces politiques qui sont voilà, qui fragilisent énormément les familles avec une, voilà, une posture tout à fait déshumanisante et très sélective. Donc, ce qui m'a intéressé en plus, c'était qu'il y avait une attention annoncée par la préfecture de l'Île-de-France d'une insertion toute spécifique pour les femmes et les enfants, avec cette idée très genrée de la vulnérabilité des femmes qu'il aurait fallu prendre en question au moment de l'expulsion, avec une mise à l'abri qui devait être plus centrée sur les populations dites vulnérables, et qu'on sait que, dans la vérité, cette attention n'existe pas vraiment, et que la vulnérabilité est annoncée, mais non pas reconnue, et que du coup, il n'y a pas systématiquement de mise à l'abri pour les femmes enceintes, pour les familles avec des jeunes enfants, pour les personnes malades, que tout ça, c'est une posture qui n'aboutit pas vraiment à un engagement concret, ce qui est quand même très dommage. Et je voulais terminer sur la question des violences qui ont eu lieu en mars et en avril, parce que je pense que c'est vraiment important d'en reparler. Donc, comme vous avez pu le lire ou suivre de près ou de loin, fin mars, du fait de certaines rumeurs autour d'accusations de kidnapping, des individus dans différentes villes autour de Paris ont vraiment commencé à agresser énormément de personnes identifiées comme roms et à se déplacer auprès de bidonvilles et de squats dans le but de menacer, intimider, voire agresser les familles qui y vivaient. Donc menaces avec des armes, tentatives d'incendie, projectiles, vraiment des agressions très violentes qui se sont multipliées sur quelques jours de manière exponentielle avec une force de réaction qui est vraiment très choquante et qui illustre la manière dont ce vieux stéréotype de rom voleur d'enfants qu'on peut retracer jusqu'au Moyen-Âge a été réactivé très rapidement par les réseaux sociaux avec un énorme mouvement de foule et très peu, trop peu de réactions de dire « mais qu'est-ce qu'on en sait, c'est pas fondé », y compris quand la préfecture de police a bien sûr dit qu'il n'y avait pas de fondement à ces... à ces rumeurs, en fait, ça n'a pas suffi. Ce qui devrait nous questionner aussi, c'est pourquoi, en fait, est-ce que ça ne marche pas que les autorités disent non, il n'y a pas de fondement à ces rumeurs, et pourtant, ça continue à avoir un effet sur les personnes qui se disent ah, mais faut qu'on agisse, faut qu'on aille intimider ces personnes. Donc, comme a pu le rappeler Anina Chouchou à l'époque, fin mars, elle disait que c'était quand même une expression très forte de l'anti-tsiganisme qui est très structurelle et que ça, voilà, c'est là où on retrouve une question qui dépasse seulement les Roms roumains, mais qui, voilà, qui fait écho avec des expériences vécues par les gens du voyage vis-à-vis d'un autre racisme structurel aussi. Et donc, on pourra en parler... Voilà, on pourra en parler plus tard dans la partie de débat, je pense. Je crois que je vais transmettre la parole à un autre collègue.
Merci beaucoup, Anne-Cécile. Peut-être que, après avoir entendu Bruno Guichard, qui nous permet de prolonger cette réflexion, on pourra avoir un petit débat entre nous, avec les gens qui sont là. Parce que moi, il y a quelque chose vraiment qui me frappe, dont j'aimerais bien parler, mais on le fera après, c'est cette construction d'une image de bouc émissaire parfait, même quand les cibles de cette image ne correspondent pas du tout à un danger, à quelque chose qui... Il y a vraiment quelque chose de l'ordre du storytelling, comme on dit... qui s'est déjà fabriqué sur d'autres populations dans notre histoire, évidemment, et qui, tout d'un coup, se projette sur des gens dont on... En tout cas, on sait bien que pour la très, très grande majorité d'entre eux, au moins, ils sont complètement inoffensifs, d'une part, et d'autre part, ils bénéficient également d'une image extrêmement valorisée et noble. Dans leur musique, etc., dans leur culture telle qu'elle est très appréciée en fait par les Européens, mais qu'on ne relie pas à ces personnes. Donc il y a vraiment quelque chose de complètement contradictoire, et on peut donc en parler après si vous le souhaitez. Bruno donc est fondateur et animateur de la Maison des Passages à Lyon, un lieu culturel dont le nom est explicite, la Maison des Passages, donc on comprend très bien. Qui a un bel objectif, participer à la compréhension et à la respiration du monde par l'alchimie de la rencontre et de la confrontation et du frottement à l'autre. Pas mal. Et la Maison des Passages est aussi coordinatrice avec l'Artag, du festival Itinérance Tzigane. Et donc on est complètement dans le sujet. Et avec aussi un autre pont qui nous relie à ce dont on a un petit peu parlé tout à l'heure avec Zaza, c'est la créolisation. Ce concept qui nous est très très utile, fabriqué par Édouard Glissant, dont on entendra tout à l'heure la parole de Sylvie Glissant, son épouse, qui aurait dû être ici, mais qui a été appelée aux États-Unis il y a quelques jours pour un colloque sur Édouard Glissant, et que donc nous avons filmé et que nous allons entendre tout à l'heure. Je dis ça parce que Bruno est membre de l'Institut pour une politique de la relation et que donc tout ça est relié par des passerelles. Et ces passerelles, c'est la rencontre avec l'autre et qu'est-ce qui se passe à cet endroit, quoi.
Bonjour à toutes et à tous. Oui, moi, je parle d'un lieu et puis d'une ville aussi, la ville de Lyon. On a un maire qui s'est fait une spécialité de la chasse aux Roms et de la chasse aux migrants. Il n'y a pas eu de bidonville qui n'a pas été expulsé sur l'agglomération lyonnaise. Il n'y a pas eu de pensée de construction d'alternatives. Bon, il y a eu du bricolage. Hein, voilà. La ville de Lyon a fait du bricolage sur la question des Roms. Et puis, en même temps, sur la question des migrants, tout le monde, vous connaissez tous les lois Gérard Collomb sur les migrants. Moi, je voulais intervenir ici, merci de m'avoir invité, sur deux aspects. Le problème, c'est de la rencontre entre des gens qui ne sont pas gitans roms et des gitans et des roms. C'était le cœur du festival Itinérance Tzigane. C'est le cœur du festival Itinérance Tzigane. Nous, quand on a créé ce festival à Lyon, qui est un des rares festivals qui existe encore sur la culture rome et tzigane, l'objectif, il était double, en fait. Le premier objectif, c'était de faire connaître la culture tzigane, qui, à part la musique et la danse, à peu près inconnue. Donc, on a invité des artistes. Gabi est venu plusieurs fois. Il vient toujours à Lyon dans le cadre du festival. On a invité beaucoup d'artistes. Il y a un monde artistique, Rome, Tzigane. Voilà. Donc, ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'était la rencontre. Est-ce qu'on peut se rencontrer ou est-ce qu'on ne veut pas ne se rencontrer? Il faut accepter de se poser la question. Alors, moi, ce que j'ai prévu, c'est de... plutôt que de donner 3-4 points de réflexion. Et puis, je voudrais laisser la parole aux poètes dans mon intervention, à ceux qui ont chanté la créolisation, ceux qui ont chanté la rencontre. Et je voudrais commencer par eux. Le premier, c'est Victor Ségalène. C'est un Breton, médecin militaire, parti en tant que médecin militaire au bout du monde. Et Victor Ségalène a chanté le divers du monde. Et il dit, c'est par la différence et dans le divers que s'exalte l'existence. Que vaut l'existence sans le divers? Voilà. Victor Ségalène, médecin militaire, comme quoi l'armée peut mener à tout. Et Victor Ségalène, ça a été une des découvertes d'Édouard Glissant et de Patrick Chamoiseau. Ils se sont emparés de ses écrits poétiques. Voilà. Comment est-ce qu'on arrive à poétiser le monde, avoir un regard poétique sur le monde? La seconde citation que je voulais vous faire, c'est Jean-Marie Gustave Le Clésio. Jean-Marie Gustave Le Clésio obtient le prix Nobel de littérature. Et il a tout de suite une première déclaration. Pas construite, c'est-à-dire dans le feu de la victoire, c'est une forme de victoire. Il dit, je lis comme ça, c'est pas de problème. La culture française est une culture de métissage. La langue française a reçu des apports de tous les coins du monde et ça continue. Ce qui est merveilleux avec la culture française, c'est qu'elle est un lieu de rencontre. Il a une respiration. Il dit, j'espère que ça va continuer. Donc on est bien là au cœur d'une interrogation. Alors quand on a créé le festival Itinérance Tzigane, donc c'est cette volonté de rencontre entre les gadjés, ceux qui sont pas roms, ceux qui sont pas tziganes, et puis les roms, les tziganes. Les appellations, je crois que les deux interventions précédentes, je ne sais pas comment il faut appeler tzigane, roms, voilà. Il y a une vraie querelle. Il y a une vraie recherche sur les mots. Des fois, c'est une querelle. Il ne faut pas se leurrer. Des fois, c'est des querelles. Et moi, je voudrais dire 2-3 mots sur l'histoire des tziganes. Ça a déjà été abordé, donc je ne vais pas m'étendre. Sur les caractérisations de l'histoire des tziganes. Les tziganes, ils n'ont pas d'archives. Il n'y a pas d'archives, sauf dernièrement. C'est un phénomène récent dans le monde des tziganes et des gitans. Il n'y a pas d'archives. Donc on est dans la culture orale. Et ceux qui écrivent, c'est les autres. C'est l'autre qui écrit. Il y a plein de remarques, plein de choses qui sont dites sur les Tziganes depuis leur arrivée en Europe. Enfin, à l'époque, ce n'était pas l'Europe. Hein. L'arrivée au XIe, XIIe siècle, hein, c'est les premiers repérages de d'où sont ces gens. Voilà, d'où sont ces gens, d'où ils viennent, qu'est-ce qu'ils viennent faire, hein. Et donc, y a pas, et moi, j'insiste sur cet aspect-là. La parole des Tziganes, des Roms, souvent, ce n'est pas les Tziganes et les Roms qui l'ont donné. C'est le regard qu'on pouvait porter sur eux. C'est un peu en train de changer aujourd'hui, hein, on a vu tout à l'heure, hein, voilà, les deux interventions précédentes, elles le disent, mais sachez ça, c'est très très récent cette affaire-là. La deuxième chose, c'est qu'il y a qu'est-ce qui fonde la culture finalement ? Et dans cette affaire, et dans cette reconnaissance du monde des gitans, des voyageurs, des, voilà, le mot voyageur, je vous dirai d'où il vient finalement. C'est une appellation policière. Hein, voilà. C'est la langue. Il y a une langue commune. Il y a des racines grammaticales communes. Hein. Et c'est une langue qu'on a pu, depuis à peu près, je crois, c'est le XVIIIe siècle, hein, où les linguistes ont commencé à repérer l'origine de cette langue, son origine territoriale, hein, le nord-ouest de l'Inde, et un parler populaire lié au sanskrit. Voilà. Et ça, ça fait commun. Ça fait commun d'ici jusqu'en passant par la Roumanie. Et voilà, hein. Donc là, il y a une base commune qui est effectivement la langue. La troisième remarque que moi je voulais faire sur l'histoire, ça a déjà été dit, mais moi je pense qu'il faut insister, c'est l'histoire d'une diversité. Il n'y a pas un Rom, un Tzigane, comme il n'y a pas un Français. Et qu'aujourd'hui, on commence effectivement à apprécier cette diversité-là, cette reconnaissance-là. Donc il y a des gens multiples, il y a aussi des gens... Quand les Tziganes arrivent dans nos territoires, enfin historiquement nos territoires, ils rencontrent des errants. Voilà, les populations ne sont pas fixées. Hein. Donc c'est aussi une culture de la rencontre. Dans le monde tzigane, il y a une culture de la rencontre. Hein. Historique, hein, qui est, les siècles le disent, et la musique tzigane le dit. Hein. La musique tzigane, c'est une musique créole, sur le fond. Hein, c'est une musique créolisée, mais bon, Gabi pourrait en parler mieux que moi. Mais c'est une musique en partie, enfin, une musique créolisée. Mais sachez quand même ça, enfin, n'oublions pas, que lorsque les tziganes arrivent, ils rencontrent des populations en errance, et ils se mélangent. Et ils se mélangent. Ce qui va poser plein de problèmes, y compris dans les appareils policiers. C'est qu'on fait la chasse à qui ? On chasse les rangs, on chasse le rhum, on chasse le paysan qui a fait faillite, celui qui s'est révolté, voilà. Hein. Ça, c'est la troisième remarque que je voulais faire sur l'histoire. La quatrième, elle est fondamentale, elle est essentielle, c'est le rejet, on l'a dit. Hein. Moi, je vous parlerai d'un rejet très particulier. Il n'est pas particulier. C'est l'extermination des gens du voyage, la tentative d'extermination des gens du voyage par les nazis. C'est ancré dans l'âme des gens du voyage. La méfiance à l'égard de la police, c'est ancré là-dedans, entre autres. Hein. Donc il y a une stratégie de rejet systématique depuis le début, sauf des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Il y a des rois, des princes qui ont accueilli les gens du voyage. Sigismond de Roumanie, de Hongrie, accueille les gens du voyage, leur fait des lettres de recommandation, les accueille. Voilà. D'où l'expression bohémien, on vient de Bohème avec des lettres de recommandation. Il y a le duché de Savoie, le duc de Savoie, la même chose. Hein. L'Empire ottoman. Les Ottomans se sont appuyés, y compris la présence des Roms dans les Balkans, il faut aller aussi la chercher dans l'histoire, à ce lieu-là, comment l'Empire ottoman, dans sa construction, dans son côté impérial, hein, a joué avec. Les Tziganes, hein. Il a essayé de s'en... Il en a fait des outils, pour certains, pas tous, bien évidemment, hein, mais il en a fait des outils de sa conquête. Hein. Ils étaient armuriers, voilà, constructeurs d'armes pour l'Empire ottoman. Donc, c'est pas une population qui n'a pas d'existence, c'est une population qui a des existences. Et puis, petit à petit, bien évidemment, des existences reconnues, je veux dire, hein. Ce n'est pas des gens non reconnus, c'est des gens qui sont reconnus, rejetés. Voilà. Et après ça, il y a le rejet. Et moi, je vais dire deux, trois mots sur le rejet. Quand même, on a Simone Veil qui parlait souvent. À un moment donné, elle a commencé à parler souvent, hein, de son internement à Auschwitz. C'est la première qui a rappelé fondamentalement, mais moi, j'ai assez parlé de moi, de l'extermination des Juifs. Je vais vous parler de l'extermination des Tziganes. Et elle explique, hein, les 500 000 morts du camp d'Auschwitz-Birkenau, Tziganes. Voilà. Elle explique la révolte du camp Tziganes du Birkenau. Voilà. Hein. Et je crois qu'il ne faut jamais oublier ça. Parce que quand vous discutez, quand vous êtes en relation avec les gens du voyage, c'est dans la tête. Hein. Et c'est pas que dans la tête, Gabi a fait un magistral travail de création hein, autour des camps d'extermination, Zigan, d'Auschwitz et Birkenau. Qu'a fait la France à cette époque ? Qu'a fait la France à cette époque ? Les premiers internés en 1939, eh ben, c'est des gens qu'on n'arrive pas à contrôler. On met dans les camps les Zigan. On les interne. C'est des espions. On ne les maîtrise pas. Ils voyagent. Toujours avec leur caravane, de village en village, de ville en ville. Impossible. On est en guerre, impossible. Donc les premiers internements de Zigan, c'est 1939. Il y a des Zigan qui vont s'engager dans la résistance, il faut le dire, on oublie toujours. Hein, voilà. Il y a des régions où, effectivement, les Zigan étaient très, très engagés dans la résistance. Je pense au Limousin, dans toutes ces régions, enfin, ce que je connais. Hein. Et puis, quand est-ce qu'on libère les Zigan des camps d'internement ? Pas en 1945, en 1946, 1947. Après la guerre, un an et demi après la guerre. Les Zigan vont être internés les premiers, libérés les derniers, et dans les derniers instants d'internement, ils vont se retrouver avec les collabos, enfin bon, tout ce que l'on sait par ailleurs.
Donc, il y a le très beau film de Tony Gatliff, ouais, Liberté, qui raconte ça.
Hein. Mais ne l'oublions pas, la stratégie française, c'était ça. Et la stratégie française, c'est quoi ? On dit... Il y a très peu de Zigan français qui ont été internés à Auschwitz. Certes. Il y a un convoi, je crois que les historiens ont trouvé un convoi qui était majoritairement avec des Zigan dans l'Europe, dans la France occupée. Dans la France occupée, effectivement, il y a eu ce convoi-là. Dans la France, dite libre, qui n'est pas la France libre, mais la France non occupée, qu'est-ce qu'on avait ? Alors nous, il se trouve qu'à Lyon, on a travaillé... Lorsqu'on a voulu commémorer hein, l'internement des Zigan, on a travaillé sur les archives départementales du département du Rhône et du département de l'Isère, enfin de deux ou trois départements de la région Rhône-Alpes. Et bien, on a trouvé des arrestations comme ça au hasard. Le flic français, gentil, le gendarme français, tout doux, tout gentil. Ah, d'où vous venez-vous ? Voilà, vous avez un nom bizarre à consonance pas d'ici. Et on a comme ça, à travers l'ensemble de la France, dans la zone non occupée, un nombre significatif, même s'il n'y en avait qu'un, hein, même s'il n'y en avait qu'un, un nombre significatif de gens du voyage qui, effectivement, vont être remis aux autorités allemandes en zone non occupée et partiront pour Auschwitz-Birkenau. Donc, moi, je crois qu'il faut toujours avoir ça dans l'esprit. Le rejet d'aujourd'hui, il est ancré dans l'histoire. Il est ancré dans l'histoire. On a un vrai problème dans notre société. Enfin, ça fait partie des quelques vrais problèmes qu'on a dans notre société. On a des vrais problèmes autour du respect de la dignité, mais également de la reconnaissance. On a du mal à reconnaître. Hein. Tout à l'heure, on a parlé de François Hollande et de ses mesures. Bon, alors François Hollande, il est ce qu'il est. Le seul lieu où la mémoire de Zigan est reconnue aujourd'hui, hein, à ma connaissance, c'est le camp de Montreuil-Belay, hein, qui est sur les bords de la Loire. Qui a été inauguré, effectivement, le mémorial a été inauguré par François Hollande. C'est tout récent, hein, ça date d'il y a... Voilà, et là, ça date d'il y a quoi les dernières années de la présidence d'Hollande, je crois. Hein. Donc, on est dans une reconnaissance tardive, très, très tardive, hein, de ce qu'a fait l'État français durant la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, je voulais dire deux, trois mots... peut-être j'ai passé mon temps. Non, pas encore. Non. Je voulais dire deux, trois mots sur... Les débats, la discussion qui s'est commencée tout à l'heure, on ne doit pas oublier dans quel temps nous sommes aujourd'hui. On est dans le temps de la mondialisation. Et l'arrivée de Rome venant d'Europe centrale, ça date d'après la chute du mur de Berlin. Ça date d'après le mur de chute de Berlin. Le mur de Berlin tombe. Bon, c'est pas l'enjeu du débat, ça sera toujours intéressant. C'est intéressant de savoir beaucoup comment il est tombé, ce mur de Berlin. Quand le mur de Berlin tombe, bien évidemment, ça libère, hein, ça permet aux plus aventuriers, aux plus débrouillards, parce que dans la communauté des gens du voyage, des Roms, des Gitans, on a ça, on a une forme de débrouillardise, on a une forme de savoir-faire. J'en dirai deux mots dans ma conclusion, autour d'un très, très beau texte de Patrick Chamoiseau. Sur le droit à l'errance. Et donc, si vous voulez, on a là des gens qui viennent parce qu'il n'y a pas de travail chez eux. Il n'y a pas de travail. Si les gens viennent, c'est parce qu'il n'y a pas de boulot, sur le fond, fondamentalement. Hein. Au-delà de la volonté de voyager, hein, de la volonté d'aller voir l'ailleurs, la première réaction du départ, c'est effectivement le fait qu'il n'y a pas de travail. Hein. Donc, n'oublions pas dans nos réflexions ça, c'est-à-dire l'implosion du système soviétique, non régulé, non discuté. Il y a eu des enjeux de discussion au moment de la chute du mur de Berlin, où moi je travaillais beaucoup à l'époque avec le Conseil de l'Europe autour d'une revue. Et il y a eu un débat, c'est est-ce qu'on fait un plan Marshall au moment de la chute du mur de Berlin, ou est-ce qu'on ne fait pas un plan Marshall en relation au plan Marshall après la Deuxième Guerre mondiale. Si les décideurs politiques avaient voulu faire un plan Marshall, bien évidemment, ce n'était pas qu'un plan économique. C'est un plan social, c'est un plan sur la démocratie. Voilà, hein. Et donc, la question aurait pu être gérée différemment. Finalement, on a laissé faire. Hein. C'est la vieille politique du laisser faire. Et puis, ben, en laissant faire, on a développé un libéralisme absolu avec comme conséquence des déplacements de population. Parce que ce qu'on retrouve avec les migrants roms qui viennent en France, c'est la même chose qu'avec les migrants africains qui viennent en France. Enfin, je pense que c'est des mécaniques un peu similaires. Hein, sur le fond. Alors après ça, je terminerai là-dessus. Nicolas a parlé du collectif pour une politique de la relation, de l'Institut pour une politique de la relation. C'est quoi notre enjeu aujourd'hui ? Hein, je crois, mais ça, c'est l'objet d'un débat, bien évidemment. Comment est-ce qu'on arrive à faire société commune avec nos différences ? Comment est-ce qu'on arrive à faire société commune avec nos différences ? Et je voudrais, là, comme ça, livrer au débat deux, trois petites choses. La stratégie française d'assimilation, hein, on veut assimiler, la République veut assimiler. En fait, cette stratégie-là, elle n'a jamais réduit le désir d'exclure. On vit une grande contradiction en France. D'un côté, on veut assimiler, trouver tout le monde dans un même modèle, et de l'autre côté, on exclut. On exclut les Roms, on exclut les précaires, on exclut le Sénégalais, on exclut le Congolais, on exclut peut-être demain l'Anglais. Peut-être demain l'Anglais, parce que ce sera mal assimilé, hein, finalement. Voilà. Donc, ayons ça à l'esprit, hein, l'assimilation, le principe d'assimilation française n'a jamais renié, finalement, son désir d'exclusion. Mais la contradiction dans laquelle aujourd'hui les décideurs politiques et nous-mêmes on est placés, c'est qu'on se mélange. On se mélange. C'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, les frontières, on les passe. Hein, les gens les passent. Et une fois qu'ils les ont passées, eh ben, ma foi, ils se mélangent. Hein, y a au moins des tentatives de mélange. Hein. Et je vais en dire deux mots, même si dans ces tentatives de mélange, on sait que c'est dans les Roms hein, qu'effectivement la situation est la plus critique. On regarde du rejet. Alors, il y a une commission consultative des droits de l'homme hein, qui, chaque année, prend un rapport sur l'intolérance dans la société française. Donc, le rapport, c'est un gros rapport. 60, je ne sais pas combien de pages, 80 pages, peu importe le nombre de pages. Et bon, dedans, il y a quelques chiffres qui sont intéressants. Et je vais vous donner les chiffres sur l'intolérance. Alors, c'est fait par sondage. Ce chiffre-là, c'est fait par sondage. Donc, voilà, c'est un sondage. Donc, on mesure l'intolérance de la société française. Et depuis 10 ans, l'intolérance a diminué dans la société française. Hein. Mais par contre, quand on voit à l'égard de qui on est les plus intolérants, bien évidemment, les premiers à l'égard de qui la société française est les plus intolérants, c'est à l'égard des Roms. Après ça, il y a les musulmans, mais les musulmans sont déjà beaucoup mieux acceptés. On passe de 35% à 61% pour les musulmans. Ils font des comparaisons bizarres. Après ça, ils disent il y a les Maghrébins. Les Maghrébins, c'est 73%. Il y a les Juifs, 77%. Tolérance, hein, donc on est vraiment là dans la tolérance, mais ça n'empêche pas qu'il y ait des actes antisémites. Hein, voilà. Mais moi, je vous livre ça parce que je pense qu'il y a cette contradiction-là aujourd'hui que nous vivons tous, c'est qu'on se mélange. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il y a toujours des choses à faire, finalement. Ou qu'est-ce qu'on peut essayer de faire ? Et là, je vais revenir, c'est un peu ce qu'on a voulu faire à l'Institut pour une politique de l'oration ou la Maison des Passages quand je dirigeais ce lieu. Je vais faire une référence à Édouard Glissant. Édouard Glissant, il disait « Il faut trouver des espaces où une pensée du monde rencontre une pensée du monde. » C'est un peu, voilà, c'est un peu des choses comme il se passe aujourd'hui. Hein. Est-ce qu'on accepte de créer des lieux comme ça où une pensée du monde rencontre une pensée du monde ? Ça veut dire qu'on privilégie l'échange et la relation. Quel regard on a sur le monde, quelle pensée on a sur le monde qu'on accepte de partager ? Je crois que ça, c'est très important. Et pour que ça marche sur le fond, parce que des lieux comme ça, ils peuvent exister, mais ça ne marche pas forcément. C'est-à-dire, souvent, on fait des additions de culture. Hein. On additionne... on pourra revenir dans le débat. Souvent, on fait des additions de culture, mais on ne joue pas sur ce partage-là, hein, sur le partage du regard et du monde qu'on veut construire en commun. Parce qu'on est un peu bloqué dans nos imaginaires, finalement. Hein. On est un peu bloqué dans nos imaginaires parce que... Il faut accepter d'être soi, mais accepter aussi de consentir à l'autre. C'est ça, le partage. Comment on est soi en consentant à l'autre. Et là, je pense qu'on est dans le cœur de nos réflexions ici. Hein. Je pense qu'on est dans le cœur de nos réflexions. Et puis, pour terminer, je voudrais redonner la parole à un poète. Il s'appelle Patrick Chamoiseau. Enfin, c'est un écrivain, un poète. Voilà. Et Patrick Chamoiseau, quand il y a eu le discours de Grenoble de Sarkozy, il y avait une perversité que vous n'avez pas mentionnée dans le discours de Sarkozy à Grenoble. Je la rappelle parce que c'est l'origine du texte. On a demandé à Patrick Chamoiseau de faire un texte parce qu'on avait une soirée au TNP, au Théâtre National Populaire de Villeurbanne, en soutien aux Roms et aux Tziganes. Et la perversité de Sarkozy, c'était de prendre une violence qu'il y avait eu entre des gens du voyage et les flics pour inverser la mécanique et attaquer les Roms. C'est comme ça que c'est parti, cette affaire-là. Hein. Le discours de Grenoble n'était pas contre les Roms à l'origine, c'était après une violence. On ne va pas rentrer dans les détails, mais on pourrait y venir si vous voulez. Hein. Il y a eu à un moment donné des actes, des violences entre des flics, et je crois que c'était des gendarmes, d'ailleurs, des gendarmes et des gens du voyage. Sarkozy s'empare de ça et assimile. Alors pour le coup, c'était l'assimilation complète entre les Roms et les gens du voyage. Pourquoi pas, à la limite, parce que c'est les mêmes racines, c'est les mêmes filiations. Et nous, à Lyon, on a fait deux choses, en fait. On a fait une manifestation. Et pour la première fois, on a réussi à faire que dans cette manifestation, il y ait des Roms, des bidonvilles et des gens du voyage, avec l'association LARTAG, l'association régionale des Tziganes et leurs amis gadjés. Et il y avait les quatre premiers rangs de la manif. Il y a eu pas mal de manifs à l'époque en France. Bon, il y avait du monde dans cette manif à Lyon. Il y avait 5000 personnes. Voilà. Et les quatre premiers rangs, c'était des gens du voyage et des Roms, des bidonvilles. Et là, le président de l'ARTAG qui a pris la parole, il s'est tourné vers la presse. Hein, il y avait la presse qui était là. Il dit, on a retrouvé nos cousins. On a retrouvé nos cousins. Voilà. Et puis, voilà, ça a duré le temps d'une manifestation. Mais c'était bien. Hein, et les journalistes n'ont rien compris à ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris. Je dirais, c'est par méconnaissance. Hein, c'est par, souvent, les journalistes, il y a des choses... Voilà, mais on ne peut pas tout savoir. Mais des fois, certains journalistes manquent de curiosité. C'est grave quand on est journaliste, je trouve. Et je voudrais terminer parce qu'à cette occasion-là, on a demandé donc à Patrick Chamoiseau de nous faire un texte. Et il a appelé son texte pour le droit à l'errance. Et je vous en lis juste deux, trois extraits. Je pense que ce texte, c'est un assez beau texte qui nous amène à réfléchir. De la création d'un ministère de l'identité nationale et de l'immigration, en passant par les nationalités révocables et le bannissement collectif des Roms, se dessine en France un effondrement éthique d'une ampleur sidérante. Une indécence majeure, qu'aucun bénéfice politicien ne saurait justifier, de très vieilles ombres sont de retour et nous fixent sans trembler. De très vieilles ombres sont de retour et nous fixent sans trembler. C'est écrit il y a 4 ans. On est à la veille d'élections où les ombres ne finiront par ne pas être des ombres. La vieille rivalité entre sédentaires et nomades fait que tout ce qui n'est pas sédentaire nous a toujours semblé dérangeant et dangereux. Notre vieil imaginaire n'a de cesse, dans toutes les régions, de toutes les rives d'Europe et en France encore plus, de rendre aux nomades la vie bien difficile et souvent invivable. En ces temps écologiques, la culture nomade n'est rien d'autre qu'une richesse. Elle suggère que la terre n'appartient à personne. Elle exprime que la terre est en partage pour tous et que l'on devrait s'y dépasser librement sans contrainte. Les cultures nomades sont mieux adaptées à ces identités ouvertes qui sont une des soifs du monde contemporain. Elles ont déjà cette avance qui autorise à prendre en compte non pas une nation, un territoire et des frontières, mais un ensemble monde à partager et sauvegarder ensemble dans le respect et dans la dignité de tous. Voilà, je crois que c'est l'enjeu d'aujourd'hui.
On peut, parce que c'est écrit dans le programme, faire un petit débat avec le public. Donc, je suis chargé de faire une invitation du public à réagir aux interventions par des questions, voire des contestations, toujours brièvement exposées. Et si pas de questions, axe possible avec les intervenants, réalité et nécessité d'une France pluriculturelle, de l'utilité des Roms, d'une peur populaire à un racisme d'État. Est-ce qu'il y a des questions ou des contestations ?
Voilà, je m'appelle Gaby Jiménez. Vous aurez l'occasion de me voir peut-être tout à l'heure, si je ne suis pas désintégré. Je voulais juste dire que les gens du voyage en France, si on prend cette appellation d'une façon administrative, Dans la catégorie gens du voyage, il n'y a que 20% de tziganes. Le reste, ce sont des gens, des sédentaires qui, à un moment ou à un autre dans l'histoire de France, se sont mis à voyager. Alors, il faut faire super attention quand on parle de gens du voyage, de ne pas assimiler, de dire gens du voyage égale de tziganes, nomades, etc. Dans la catégorie gens du voyage, que 20% de personnes d'origine tzigane. Quand je dis tzigane, c'est les Roms, c'est les Manouches, c'est les Gitans et c'est les Sintés. Après, il y a des voyageurs qui sont simplement voyageurs et d'autres qui s'identifient comme étant des Yéniches, qui sont eux-mêmes des sédentaires qui, à un moment dans l'histoire, se sont mis à voyager. Voilà.
Je suis d'accord avec Gabi là-dessus. Mais de toute façon, tu as raison, Gabi. Le problème, c'est la complexité, parce qu'à un moment donné, les gens ont voyagé, ils sont arrêtés de voyager. À un moment donné, on a pris des forains, les amis gens du voyage, on les a assimilés aux tziganes. Voilà, il y a eu. Donc, et l'expression, enfin, l'appellation gens du voyage, c'est une appellation policière, administrative. C'est pas. Voilà, c'est. Il faut savoir qu'il fallait pouvoir contrôler une population à un moment donné. On a dit gens du voyage, voilà. Comme on aurait pu. Quand on veut contrôler une population, il faut la nommer. Si on la nomme pas, on peut pas la contrôler. Voilà. Et donc, après ça, on a contrôlé avec cette appellation-là, aussi bien des forains que des tziganes. Mais je dirais peu importe, à la limite. C'est pas. Voilà. Le vrai problème, c'est le contrôle de la société qui exerce l'État.
Et peut-être qu'on pourrait, puisqu'on a, on a commencé à parler un petit peu de créolisation et de glissant, et qu'on parle de France pluriculturelle là dans le programme, peut-être qu'on pourrait essayer de comprendre ce qui différencie fondamentalement la mondialité dont parle Glissant, puisque c'est un philosophe, en plus d'être un poète, et que donc il cherche à mettre en avant des concepts, même si les mots existaient déjà auparavant. Donc mondialité, pour Glissant, c'est pas l'opposé absolu, mais c'est très différent, évidemment, de la mondialisation. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Parce que France pluriculturelle, d'accord, mais si c'est pour lisser, standardiser et produire un producteur-consommateur identique partout dans le monde, c'est peut-être pas le but.
Je vais en dire un mot et puis je vais dire un mot sur la pluriculturalité et l'opération qu'on a lancée, parce qu'on a lancé une opération à quelques-uns. La mondialisation, c'est la mondialisation économique. Les patrons n'ont pas de frontières. Le patron n'en a pas de frontières, sauf quand il y a intérêt. Sauf quand il y a intérêt. Bon, moi, je travaille, mais bon, quand on travaille sur l'immigration, pas que l'immigration rome, mais l'immigration en général, c'est ça. Comment la société française s'est construite ? Le patronat est allé chercher des travailleurs. Il est allé les chercher. Il les a emmenés. Donc il y avait pas. Il les a amenés ici en France. Et ils ont. Et puis à un moment donné, on n'avait plus besoin d'eux pour des raisons XY. On les jette. Hein. On les laisse se noyer. Et aujourd'hui, sur les sans-papiers, c'est très intéressant de voir une partie de la réaction du patronat. Il a besoin des sans-papiers. Il en a besoin. D'abord parce qu'il y a un problème de main-d'œuvre dans certaines branches industrielles. Il en a besoin aussi pour faire baisser quelque part, à un moment donné, enfin, une accumulation. Ça permet aussi de jouer sur les salaires. Hein. Et il y a des. Moi, j'ai vécu des choses extraordinaires à Lyon avec des gens qui arrivaient du Sénégal ou du Cameroun il n'y a pas très très longtemps et qui se sont rendus compte qu'ils pouvaient trouver du travail. En fait, voilà, on peut trouver du travail. Enfin, à Paris, voilà, hein, c'est encore plus facile qu'à Lyon. Hein, on peut trouver du travail. Donc, je pense que l'idée de la mondialisation, c'était. Voilà, c'est cette mondialisation économique. Bon, le libéralisme qui nous porte et le néolibéralisme aujourd'hui hein, qui nous emmène. Mais moi, n'oublions jamais que les patrons, pour eux, les frontières, ils n'en ont pas besoin. Ils savent les franchir, sauf quand, à un moment donné, il y a une contraction, bon, une crise économique qui est là, et on referme les frontières. Hein. Et Edouard Glissant, quand il a eu cette réflexion-là, c'était plutôt ce que je disais tout à l'heure hein, quand je le citais, c'est cette capacité de penser le monde. Voilà, dans l'échange, dans la relation. Et la mondialité, c'est cette volonté-là de dire il y a une mondialisation économique, mais le monde quand même se transforme, les gens se rencontrent, les gens se croisent, les gens se métissent. Il n'y a pas qu'en France, les gens se métissent. Même si c'est dur, même s'il y a des réactions de rejet, des réactions antisémites, du racisme, mais malgré ça, malgré tout ça, le mélange se fait. Et la mondialité, c'était ce regard commun sur le monde, hein, pour faire très très bref. Sur la pluriculturalité. Alors, à Lyon, on a lancé un. C'était une folie, cette affaire-là. Mais bon, il y a eu l'an dernier, Macron décide de lancer un débat sur la révision constitutionnelle. Bon, un truc foireux, hein, pour diminuer le nombre de députés. Bon, je ne sais pas trop ce qu'il veut faire. Enfin, en gros, diminuer le nombre de députés, renforcer la technocratie en France. En gros, c'est ça, quand même, sa réforme constitutionnelle. Et puis, au passage, on fait un cadeau aux Corses, on leur donne l'article, je ne sais pas combien. Voilà, hein. Et puis, nous, on s'est dit, il y a un truc qui n'a jamais été fait. C'est la société française, elle est pluriculturel, hein, pas multiculturel, mais pluriculturel. Il y a des cultures du monde. Hein, c'est la réflexion de Leclésio, hein, en début de mon intervention. Et donc, on s'est mis autour d'une table avec des juristes, et puis voilà, on s'est dit, essayons de faire inscrire dans la Constitution française, dans l'article 1 de la Constitution française, le mot pluriculturel. La France, une, indivisible et pluriculturelle. Donc on lance un texte, une pétition. Hein, bon, certains dans la salle l'ont signé. Voilà, hein, et puis on envoie ce courrier. Bon, on ne cherchait pas 10 000 signataires. Hein, mais peut-être qu'on va finir par chercher 10 000 signataires. Donc voilà, on a fait signer, en fait, les gens qui ont signé ce texte-là. Il y a des chercheurs qui ont travaillé sur ces questions-là, hein, entre autres sur les questions d'immigration. Hein. On a des gens comme Edgar Morin, on a des journalistes comme Edwy Plenel, on a des artistes qui ont signé. Voilà. Et puis, on a voulu, dans les signataires, avoir... Il y a Gabi qui a signé, voilà. On a voulu avoir dans les signataires les gens qui ont pensé l'immigration. Hein. Et en France, il y a tout un réseau de gens qui ont travaillé sur l'immigration, qui sont aussi à l'origine, hein, du musée de l'immigration à Paris, même si cette origine-là, elle est un peu balayée aujourd'hui. On fait comme s'ils n'existaient pas. Hein. Mais à travers toute la France, il y a bon, une dizaine de réseaux, hein, sur la mémoire de l'immigration. Donc on est allé chercher ces gens-là et on a fait signer ce texte. Très simple, hein. On met le mot pluriculturel dans l'article 1 de la Constitution. Bon, on a, le débat constitutionnel, il s'est un peu évaporé avec Benalla, hein, sa première chose qui a fait évacuer le débat sur la Constitution, et puis deuxième chose, le mouvement des Gilets jaunes. Et le débat sur la Constitution va ressortir. Hein. Donc voilà, et nous, on a été reçus. Alors, on a envoyé à, je ne me rappelle plus, je crois qu'il y a 577 députés, 360 sénateurs, je ne me rappelle plus, mais c'est à peu près dans ces chiffres-là. On leur a envoyé notre courrier en disant, ben voilà, nous, on est prêts à discuter avec vous de cette question-là. Sur ces 800, on va retenir dans le chiffre de 800 personnes, il y a deux députés qui nous ont écrit. Ça donne à peu près. Alors, deux députés qui nous ont écrit, qui nous ont reçus. Hein. Deux députés qui viennent, qui sont à La République En Marche, mais qui viennent plutôt des écolos qui ont rallié La République En Marche. Hein, voilà. Il y a toute une partie des écolos qui ont rallié La République En Marche. On a eu la semaine dernière, c'est pas très vieux, une discussion autour de ça. Et donc, on va relancer ce débat-là parce que le débat sur la Constitution va ressortir. Hein, il devrait ressortir au mois de juillet pour un débat parlementaire à la rentrée. Donc voilà, l'idée, c'est de dire effectivement. Finissons-en en France, reconnaissons qu'on est dans une société pluriculturelle, parce que c'est la réalité. C'est la réalité. Hein. Et on est bien placé ici hein, ce soir pour voir une partie de la réalité. Donc on est dans une société pluriculturelle, reconnaissons cette pluriculturalité-là. Et une fois qu'on a commencé une démarche de reconnaissance, bien évidemment, le monde change.
Je vais juste ajouter une chose sur la production concernant l'être humain de ces phénomènes économiques. Ou alors du phénomène inverse dont parle Glissant avec la créolisation. Les États-Unis sont pluriculturels, c'est aussi eux qui fabriquent le standard mondial. Je veux dire, ce sont les mêmes qui sont en train de nous fabriquer un standard humain mondial de producteur-consommateur universel qui va acheter les mêmes produits partout dans le monde, s'habiller de la même manière partout dans le monde, écouter la même musique partout dans le monde, etc. etc. Donc je veux dire, cette pseudo pluriculturalité qui n'est pas du tout créolisation provoque du standard. Et moi, il me semble que en ce qui concerne le résultat humain, ce dont nous parlons, et puisqu'on parle des Roms aujourd'hui, ce dont parle Glissant, ça, évidemment, c'est très, très frappant dans la rencontre des cultures roms avec la musique des pays de l'Est. C'est très, très frappant dans le monde hispanique. Il y a quelque chose d'extrêmement puissant qui est tout sauf la standardisation qui se révèle dans cette créolisation. Moi, ça me paraît très important, cet aspect-là.
Alors, étant originaire de Gironde, et ayant vécu longtemps à Bordeaux, il se trouve qu'il y a à Bordeaux une petite galerie qui proposait à des artistes d'origine africaine d'exposer. C'était MC2A avec monsieur Guy Lenoir. Oui, Migration culturelle Aquitaine. Il se trouve que Guy Lenoir nous a beaucoup soutenus, association à Rome. Et c'est grâce à lui que j'ai appris que nos familles gitanes, il y a des dizaines d'années, alors que des familles africaines, en tant qu'esclaves, étaient dirigées vers le Brésil ou les États-Unis, l'État français, a demandé aux familles gitanes est-ce que vous partez aux galères ou est-ce que vous êtes emprisonné en France ? Et des familles ont dit, nous partons peupler la Martinique, nous partons au Brésil, etc. Et lorsque vous évoquez cette créolisation, il ne faut pas oublier que nos familles gitanes sont dispersées partout dans le monde. Et par exemple, une linguiste qui s'appelle Elisabeth Clanet-Lamanite, vous aurez exposé en 3 heures le fait suivant, que certains gitans ayant atterri au Brésil sont devenus avocats, juristes et ont fondé des entreprises là-bas alors qu'ils n'auraient pas pu le faire en France. Donc ça, c'est une partie qu'il ne faut pas oublier, une partie de notre histoire. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure à propos du Samoudaripen, du génocide en fait, eh bien, lorsque nous avons ouvert notre association à Rome de voyage à Bordeaux en 1998, nous avons, dans l'année qui a suivi, été contactés par un service suisse et américain qui s'appelle Victim Holocaust Litigation, qui est encore en fonctionnement actuellement aux États-Unis et qui propose tout simplement aux familles spoliées de récupérer leurs biens si elles en fournissent la preuve. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'argent en Suisse qui appartient aux familles persécutées et qui n'a jamais été restitué. Parce qu'on ne sait pas, on ne sait plus à qui c'est en fait. Ou bien on sait à qui c'est, mais on ne peut pas le dire. Et voilà, si vous souhaitez avoir des renseignements, vous pouvez aller à l'université de Tolbiac, consulter ma première thèse. Et ce formulaire est à l'intérieur si certains en ont besoin pour leur famille.
Déjà, presque dans la thématique du débat qui va suivre, qui est donc qui interroge comment les formes artistiques se transforment et s'inventent par le frottement des cultures.
R22 Radio, tout le monde et autres.
Les allumeurs.